La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici dans ce lieu où nous nous réunissons pour louer Dieu ensemble avec les enfants de l'éducation biblique ce matin. Bienvenue et merci à toutes les personnes qui s'occupent d'eux aujourd'hui à l'éducation biblique, monitrices, moniteurs. Merci d'être là fidèlement pour cette éducation biblique qui nous permet d'avancer ensemble de génération en génération et de pouvoir partager des thèmes qui sont importants pour que nos petits grandissent et que nos grands puissent réfléchir par eux-mêmes avec toute l'autonomie qu'on leur souhaite dans leur réflexion biblique. Bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent ce matin avec nous et qui nous rejoignent. Ils sont nombreux sur toutes sortes de médias qui permettent de suivre ce culte et qui nous relient au-delà de toutes les distances possibles. Nous pouvons être ensemble parfois avec une distance très grande géographiquement et une proximité de cœur très grande aussi. Bienvenue au cœur de l'oratoire qui est ce matin avec nous à la tribune avec ce matin une maîtresse de chapelle qui est avec nous, Victoire Lyon, qui va diriger le cœur ce matin pour nous et nous souhaitons un prompt rétablissement à notre maître de chapelle qui est Alexandre Korovitch et qui malheureusement a un petit souci ce matin. En tout cas, nous lui souhaitons que tout aille bien très vite. Merci à David de conduire ce temps de culte à l'orgue. Je laisse maintenant la parole à Agnès pour pouvoir nous conduire dans la louange.
Mais je vous invite à ouvrir ce culte en prenant le premier spontané que vous trouverez au tout début du psautier français dans les petites liturgies blanches qui s'intitule « Éducation biblique » et nous chanterons le premier « Répond ». Je vous invite à vous lever. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 138. Psaume 138, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Prenez place. Écoutons ce que Dieu attend de nous et nous donne la force de faire. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, le code des lois, tu ne dois pas commettre d'adultère, tu ne dois pas assassiner, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas convoiter, et tous les autres commandements se résument dans cette seule phrase: tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
Nous nous présentons devant Dieu avec cette prière anonyme. Seigneur, excusez-moi si je vous dérange. Il m'est venu tout à l'heure l'idée que vous avez besoin d'un saint. Alors je suis venue pour la place. Je ferai très bien l'affaire. Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices. Pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet. Moi, je n'aime pas les sacrifices. Ça m'ennuie énormément. Ce que je vous ai donné, Seigneur, vous savez bien que vous l'avez pris sans permission. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter. Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits au bout d'un trimestre. Moi, je n'ai pas assez confiance en vous, malheureusement, pour ça. Qui sait si je vivrai encore au bout de la première semaine ? Vous êtes si imprévisible, si impulsif, mon Dieu. Alors, j'aime autant garder mes défauts et m'en servir le moins possible. Amen.
Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. L'Éternel Dieu vit en nous, que son esprit nous anime. Sa force transforme notre faiblesse. Sa miséricorde nous relève de notre misère. Sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Et il nous redit ce matin, « Ma grâce te suffit ». Et nous vous proposons de vous joindre à cette confession de foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit, pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors les enfants, écoutez bien parce que je vais lire le texte que vous allez avoir à étudier tout à l'heure avec vos monitrices et moniteurs. Et donc vous allez pouvoir en entendre une première lecture. C'est dans le livre des Actes, vous savez qu'en ce moment on est dans ce livre-là ensemble pour regarder ce qu'on peut être comme chrétien dans la ville, c'est le thème de notre année. Et c'est dans le chapitre 15, les versets 1 à 20. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabé, ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem, devant les apôtres et devant les anciens, pour parler de cette question. L'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour voyager. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils racontaient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem,
ils furent accueillis à l'église. Les apôtres et les anciens les accueillirent et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette affaire. Après un vif débat, Pierre se leva et leur dit « Mes frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous pour que, par ma bouche, les non-juifs entendent la parole de la bonne nouvelle et deviennent croyants. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples une charge que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude fit silence, et l'on écouta Barnabé et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait produits par leur entremise parmi les non-juifs. Lorsqu'ils se turent, Jacques, c'est le frère de Jésus. Vous savez que Jésus avait des frères et sœurs. Hein? Alors, Jacques, c'est un des frères de Jésus. Jacques dit, « Mes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les peuples qui ne sont pas juifs un peuple qui devienne un peuple à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai. » Alors la tante, c'est la tante de camping, hein, c'est pas la tante, la sœur de son frère, enfin, vous voyez. « Afin que le reste des humains recherche le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. » Il s'agit donc là d'aller prêcher à tout le monde, qu'il soit circoncis ou pas, qu'il soit juif ou pas, vous comprenez. C'est pourquoi moi, je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas au culte des idoles après être devenus disciples de Jésus, ni à l'inconduite sexuelle, alors ça restait un sujet très très épineux, ni aux animaux étouffés et au sang. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils mangent de la viande où les animaux avaient été tués d'une certaine façon et où il n'y avait plus de sang dedans. Voilà ce que Jacques a proposé comme sortie du conflit, afin que tout le monde puisse tomber d'accord. Alors je vais maintenant vous laisser partir avec vos monitrices et vos moniteurs pour aller au mini-culte, avec Agnès qui va conduire le mini-culte et qui va pouvoir vous parler de ces débats dans l'église ancienne, et vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. Je rassure les parents, il n'y aura pas de travaux pratiques quant à la circoncision. Alors, les catéchumènes, n'hésitez pas à vous regrouper maintenant qu'il y a de la place devant. C'est comme vous voulez. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, je vous invite à chanter le cantique 250, les strophes 1, 2 et 3, dans les louanges et prières. Je vous invite à la prière. Éternel, ouvre nos cœurs à ta parole et permets que les mots anciens écrits dans la Bible, si difficiles parfois à comprendre pour aujourd'hui, soient des mots qui nous rappellent à notre propre devoir, à notre propre conscience, et que nous puissions nous remettre à ton écoute en toute confiance. Éternel, montre-nous ta voie. Amen. Cela peut paraître étrange de proposer aux enfants de l'éducation biblique et aux jeunes aujourd'hui ce récit de controverse sur la circoncision, eux qui ne sont pas a priori concernés par ce geste rituel directement.
Mais dans notre parcours intitulé « Chrétien dans la ville », le thème du débat et de la controverse dans l'Église nous a semblé un thème essentiel. Pour la formation de la vie religieuse, de la vie spirituelle des enfants, mais peut-être aussi pour leur formation tout court, c'est-à-dire leur formation à vivre ensemble dans notre société. C'est que l'expérience de notre vie en société nous montre, et peut-être de façon très forte aujourd'hui et en ce moment, que la culture du débat ne va pas de soi et n'est à coup sûr pas innée. Débattre, ça s'apprend, ça se construit. C'est une véritable activité qui demande un savoir-être et un savoir-faire. Dans ce passage du livre des Actes, il ne s'agit pas tant de savoir si la circoncision est un acte rituel bien fondé ou non. On ne revient pas sur les fondements de la religion juive et les fondements de cet acte-là. Mais il s'agit plutôt de déterminer qui va faire partie de l'Église telle qu'elle est en train de se former. On est au tout début des églises chrétiennes, et qui est sauvé ou ne l'est pas. Et nous allons voir que la question posée a besoin de se laisser déplacer par le débat, justement. L'histoire se passe entre Antioche en Syrie et Jérusalem. Une dissension commence à diviser très sérieusement les communautés du christianisme naissant. On a d'ailleurs peine à parler encore de communauté chrétienne, tant les prémices sont encore très ancrées dans le judaïsme des apôtres. On a l'impression d'un judaïsme qui a quelques facettes différentes, mais le paganisme n'y est pas encore complètement assimilé, pas encore complètement entré. On ne fait pas encore tout à fait communauté ensemble. Les pharisiens qui placent leur foi en Jésus, donc ceux qui ont choisi de suivre ce personnage particulier et son enseignement, ont donc enjoint des communautés naissantes à devenir eux-mêmes comme eux, c'est-à-dire à être circoncis pour être sauvés. Ils affirment qu'il faut ce signe-là dans sa chair pour pouvoir faire partie de ceux qui reçoivent le salut de Jésus-Christ. Cela nous semble aujourd'hui un problème assez facile à régler, mais à l'époque où se passent les faits, sans doute vers 48 ou 49 après Jésus-Christ, c'est un problème redoutable. Et c'est le sujet sur lequel Paul et Pierre vont se fâcher. Il va y avoir une dispute entre eux, parce que Pierre est accusé par Paul de manquer de courage devant les anciens de Jérusalem et de faire preuve d'hypocrisie sur cette question de la circoncision. En fait, il semble que Pierre assume difficilement le fait d'aller se mêler aux païens comme il se mêle aux juifs. Lui-même est juif et il a du mal encore à penser la communauté comme un lieu où l'on puisse se rencontrer sans que cela pose de problème de pureté. Alors, dans la lettre aux Galates, on peut lire aussi le même événement raconté autrement par Paul, et Paul rappelle ces faits et dit clairement qu'une dispute a éclaté entre Céphas, donc Pierre. Pierre était surnommé Céphas, il avait deux noms, même trois, puisque c'était Simon, Pierre, Céphas, vous voyez. Et donc Paul se dispute avec Pierre. Alors Jacques, voilà ce qui est écrit dans la lettre aux Galates, Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, je reviendrai sur ce terme, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion, c'est-à-dire qu'ils leur donnent une sorte d'accréditation. Ils vont pouvoir être missionnaires pour la nouvelle prédication de Jésus-Christ. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Donc chacun a son travail. Il y en a qui s'occupent des communautés de circoncis, donc de juifs, et il y en a qui s'occupent des communautés d'incirconcis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. Alors les pauvres, quand on parle de ça dans les lettres de Paul, en fait, il s'agit de la communauté de Jérusalem, qui était considérée comme sans doute la communauté la plus pauvre à ce moment-là, avec tous les anciens qui étaient restés là et qui avaient beaucoup de peine à survivre dans le contexte où ils étaient. Et il fallait donc leur envoyer des subsides pour que la communauté puisse continuer à vivre. Mais lorsque Céphas, Paul continue sa lettre, hein, lorsque Céphas, donc Pierre, est venu à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, donc le frère de Jésus, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des juifs, des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu, leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, « Si toi tu es juif et vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment penses-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Alors vous voyez, là c'est vraiment la dispute où il s'en prend directement à Pierre et lui reproche en fait de ne pas avoir le courage d'assumer ce qu'il fait. Il est allé avec Corneille, il a séjourné dans la maison de Corneille qui était un païen et qui n'était pas sans doute circoncis lui-même, et il vient maintenant se cacher un peu et faire comme s'il était plutôt bien avec ceux qui sont circoncis qu'avec les autres. Tout ça parce qu'il a peur de l'autorité des anciens, et notamment de Jacques, le frère de Jésus, qui manifestement jouissait d'une grande autorité au sein des premières communautés. Manifestement, Céphas n'assume pas la nouvelle pratique qu'il avait pourtant adopté en conscience. Il avait commencé à être l'apôtre des païens et qui consistait à manger aussi bien avec les païens incirconcis qu'avec les juifs circoncis et à les considérer disciples du Christ, les uns comme les autres, au nom de leur foi en Jésus-Christ et pas au nom de leur observance de la loi de Moïse. Paul reproche à Pierre de se comporter comme les païens, c'est-à-dire de ne pas être loyal à l'égard de Dieu. Donc il ressort son judaïsme et il lui dit « Puisque tu veux être juif, eh ben sois-le vraiment », c'est-à-dire sois fidèle aux engagements que tu as pris et sois en vérité avec Dieu. Il est maintenant dans une confession où ce n'est plus la loi de Moïse qui justifie, qui rend juste donc mais aux yeux de Dieu, mais la foi en Jésus-Christ. Pourtant, il rétrocède dès qu'il se sait sous le regard des anciens de Jérusalem et reprend ses vieilles observances de pureté juive. Il arrive très souvent qu'à la suite de décisions pourtant conformes à la vérité, à la théologie d'une église et au débat qui a eu lieu dans cette église, cette cohérence soit pour nous aussi contemporains difficile à assumer dans les faits. Il y a toujours des tas d'allers-retours dans nos prises de décision et souvent on est tenté de rétrograder, de rétrocéder parce qu'on se dit que c'est quand même très risqué de changer les habitudes et les façons de faire dans nos communautés. Nous sommes souvent très frileux. Nous avons encore en tête la décision de bénir tous les couples mariés, qu'ils soient hétérosexuels ou non, sans faire de distinction. Et cela, l'Église protestante unie de France l'a décidé en synode avec une façon de faire qui permettait à chacun de trouver sa place et sa façon d'assumer cette décision. Mais nous constatons que 9 ans après, notre Église protestante unie de France est encore traversée par des conflits qui s'enracinent dans cette décision et continuent à diviser nos rangs. Alors peut-être pas particulièrement ici à l'Oratoire du Louvre, mais au niveau national, c'est certain. Le synode avait pourtant cherché à adopter une attitude modérée pour faire place à la pratique nouvelle, tout en ne forçant personne et en ne choquant personne dans ses convictions profondes et individuelles. Un peu comme l'attitude de Jacques, frère du Seigneur, considéré avec Pierre et Jean comme une colonne de l'Église de Jésus-Christ, et qui propose en son autorité d'ancien, c'est pour ça qu'on dit que c'est une colonne de l'Église, reconnue et respectée, il choisit, lui, de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Vivre ensemble dans les nouvelles communautés chrétiennes n'allait donc pas de soi, pas plus qu'aujourd'hui, cela va de soi, de venir avec des convictions différentes et pourtant une foi que l'on croit commune. Il fallut faire preuve d'opiniâtreté pour que toutes ces personnes venant d'horizons différents, au nom de Jésus-Christ, puissent cohabiter dans la même dénomination et faire du commun ensemble, là où tout les opposait. Nous savons par expérience qu'il faut parfois, même si cela provoque des remous, parler des choses qui fâchent et en débattre, pour ne pas laisser l'hypocrisie dont parle Paul s'installer et se retrouver dans la situation de double jeu que décrit Paul dans l'Épître aux Galates. Il sera en effet facile de ne pas débattre et de dire, après tout, chacun fera comme il veut faire, et ce que l'on a décidé, si ce n'est pas respecté, eh bien après tout, c'est la conscience de chacun et c'est leur droit. Sauf qu'à ce rythme-là, il n'y a plus de règles communes et l'identité même d'une communauté devient très vacillante, très difficile à identifier, et il est difficile de construire du commun quand on n'est pas d'accord sur des principes très importants. Laisser ce double jeu s'installer, c'est accepter que les règles communes n'aient plus aucune autorité, en fait, et que l'on finisse par user de l'institution créée en commun pour servir des intérêts particuliers et des désirs personnels. Chacun, en effet, pourra s'immiscer dans la règle pour en faire un peu ce qu'il veut à son bon loisir. Ainsi, tous ces intérêts personnels n'ont rien à voir avec l'intérêt commun, et il faut toujours essayer d'avoir une vue d'ensemble et essayer de prendre des décisions qui puissent permettre à la communauté tout entière de continuer à faire chemin ensemble. Dans le livre des Actes, on comprend la difficulté d'un débat qui touche à l'identité des premières communautés. Comment effectuer le passage de l'ancienne loi juive, qui était la boussole des pharisiens et qui ont pourtant rejoint Jésus, et être clair avec cette théologie ouverte sur le paganisme? Comment délimiter les frontières de la nouvelle Église alors que ce sont des frontières poreuses où l'on peut être accueilli sans avoir besoin de contraintes très dures? Et comment vivre au quotidien avec les autres et pour soi-même les nouvelles règles de vie que l'on s'est données? Comment on fait pour un juif qui est habitué à observer des règles alimentaires très profondes? Comment on fait pour tout d'un coup les mettre de côté pour pouvoir être avec les autres? On parle là de règles qui portent sur le corps, sur quelque chose d'extrêmement intime. Et donc ça devait être en effet très difficile à mettre en pratique. Les églises sont souvent créées à partir de coupures, des séparations, des schismes, et elles se démarquent les unes des autres par leur antagonisme avec la communauté dont elles se sont détachées. On a souvent des créations de nouvelles communautés à partir de quelques dissidents qui décident de faire sécession et d'aller créer une autre église ailleurs. Ici, la frontière tranchée que propose Paul en voulant effectuer le passage d'une théologie de la loi à une théologie de la foi n'est pas si facilement admise, et la conversion pure et simple au salut dans la foi sans les œuvres de la loi se révèle bien difficile à effectuer pour les juifs circoncis. Les anciens de Jérusalem sont des juifs très observants. Pour eux, la loi de Moïse n'est pas un accessoire dont on se passerait facilement. Jacques, le frère de Jésus, représente très bien ces judéo-chrétiens des premières générations de l'Église primitive. Il est juif, et Flavius Joseph, l'historien, écrit dans les Antiquités juives: le grand prêtre Anne convoqua les juges du Sanhédrin et traduisit devant eux le frère de Jésus appelé Christ, son nom était Jacques, et quelques autres. Il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour qu'ils soient lapidés. Mais ceux des habitants de la ville qui passaient pour les plus équitables et stricts observateurs des lois s'en indignèrent et envoyèrent secrètement demander au roi d'ordonner à Anne de ne plus opérer de la sorte. On voit ici que Jacques est à la fois défendu par les Juifs observants, tout en étant condamné par les autorités du Sanhédrin à être lapidé parce qu'il a transgressé la loi de Moïse. La position des disciples de Jésus qui ont quitté le judaïsme pour arriver dans le christianisme, par bien des côtés, semble intenable, tant qu'ils ne sont pas séparés purement et simplement de leur ancienne communauté juive. Cela devait être invivable pour eux. Et même si la communauté des disciples de Jésus a acquis une existence propre et autonome des autres religions autour, ses membres, eux, restent ancrés dans leur ancienne pratique et transportent avec eux leurs observances et leurs croyances passées. On ne s'en défait pas si facilement que cela. La conversion, même si elle prend la forme d'une décision radicale, n'en est pas moins un processus long et difficile. Ainsi, aujourd'hui encore, nous avons beaucoup d'exemples, et vous en êtes sans doute des exemples ici pour certains et certaines, de personnes qui embrassent la confession réformée en venant d'autres confessions, et notamment du catholicisme, et qui sont à la fois très claires sur leur décision de devenir protestants, mais en même temps qui ont du mal peut-être à remplacer toutes les pratiques passées dans leur observance et dans leur façon de vivre leur foi dans le catholicisme en arrivant dans le protestantisme. Il y a des choses qui restent ancrées en soi. Il faut retrouver de nouveaux repères et ce n'est pas si simple. Recommencer à intégrer, à incorporer un rite et une religion, c'est parfois difficile. Il faut renoncer à des habitudes qui avaient un sens réel dans la vie de chacun et il faut redonner une nouvelle signification et se réinterpréter soi-même pour arriver à réinterpréter sa religion. Le débat raconté dans Actes 15 nous montre les efforts qui sont faits pour ne pas provoquer la rupture entre les Juifs et les païens et ne faire violence à personne dans sa conversion. Outre le fait de se référer à des autorités morales dignes de ce nom, comme Jacques, les apôtres et Paul vont tenter de faire émerger l'essentiel dans cette effervescence théologique, la foi en Jésus-Christ comme sauveur. Une voie médiane est trouvée pour rassembler tout le monde sous la même règle. Pas besoin de se faire circoncire, mais il faudra renoncer aux pratiques païennes en s'abstenant des souillures, des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Chacun a donc fait un pas vers l'autre, et ni l'hypocrisie de Pierre, qui ressemblait plutôt à de la peur, ni le radicalisme de Paul, qui ne veut transiger avec rien, n'ont gagné. Au bout du compte, il a fallu trouver une façon de vivre ensemble. Il s'agit de s'admettre les uns les autres au nom d'un homme dont la mort sur la croix replace chacun devant son humanité et son besoin de salut. Et c'est ce qui va présider aux décisions des anciens, des apôtres et de ces missionnaires qui auraient voulu ouvrir sans doute plus facilement et plus grandement les portes de ces communautés chrétiennes et faire du christianisme un renoncement complet au judaïsme. Et en même temps, fallait-il vraiment faire cela? Ou était-il possible de garder ses racines juives à ce christianisme que Jésus lui-même avait vécu? La question est très sérieuse et reste entière. Il est très important de se la poser et de ne pas vouloir régler les choses trop facilement et trop rapidement. Ce faisant, le débat pour savoir qui est d'Église et qui n'en est pas, qui est sauvé et qui ne l'est pas, a été déplacé en chemin. La question est maintenant, comment vivre ensemble avec nos différences dans la même communion et être au bénéfice du même salut? Là où régnait la coupure, et elle est symbolisée par cet acte de la circoncision, c'est très parlant, celle de la pureté rituelle, celle donc de ce rite particulier, là où le chaos du paganisme aux yeux des Juifs, menaçait, les anciens et parmi eux Jacques ont trouvé le moyen d'élever la communauté au-dessus des clivages au nom du Christ, sans transiger avec l'essentiel, sans renoncer à la vérité de ce qu'ils avaient reçu, sans essayer de faire le contraire de ce que leur conscience leur dictait. Ils ont retrouvé ainsi l'origine de ce qui les avait saisi dans la rencontre avec le ressuscité. Peut-être arriverons-nous à montrer ce chemin exigeant du débat constructif aux enfants que nous avons la responsabilité d'éduquer. Peut-être que nous aurons du mal à leur montrer parce que pour nous-mêmes ce n'est pas si clair et si facile. À nous, en tout cas, dans nos institutions ecclésiales, dans notre comportement quand nous voulons régler nos conflits, de leur montrer l'exemple et de pouvoir ainsi être toujours courageux quand il faut faire les choses et les décider et mettre les débats sur la table et en même temps comprendre que pour faire du commun, il faut s'écouter les uns les autres et arriver à cheminer ensemble, bien que nous n'ayons pas tous le même rythme de marche. Synode veut dire cheminer ensemble, le même chemin. Alors, réfléchissons à cette question d'être en Église pour que nous puissions le transmettre à nos enfants. Amen. Merci au cœur pour ce clin d'œil à la théologie catholique, puisque vous avez entendu un Ave Verum. Je vous invite maintenant à chanter ensemble un cantique de notre bon vieux recueil de louanges et prières, dans le cantique 251. les strophes 1, 2 et 3, et nous nous levons. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble quelques annonces avec notre présidente du Conseil, Aurore.
Merci Béatrice. Bonjour à tous. Bonjour les enfants, les grands. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Pardonnez ma voix un peu enrouée, mais il y a beaucoup de microbes qui traînent. Transmettre, tu l'as dit, c'était un sujet il y a l'année dernière, en février dernier. Nous sommes aujourd'hui la journée de souvenir des déportés. Et février de l'année dernière, nous avons apposé une plaque en mémoire de héros du quotidien qui appartenaient à cette paroisse, mais pas que, et qui ont permis à 63 enfants juifs de ne pas être déportés. Donc vendredi, nous avons eu une classe d'enfants et également des élus qui sont venus déposer une gerbe devant la plaque. Donc si vous ne connaissez pas la plaque que nous avons apposée l'année dernière, je vous en prie, allez la voir pour comprendre, les enfants, que on ne déporte pas parce qu'on est juif, on ne déporte pas parce qu'on est catholique, parce qu'on est protestant, on ne va pas non plus dans les bûchers de bois vert parce qu'on ne pense pas comme tout le monde chez les protestants. C'est important de se respecter. Et puis, puisque tu as parlé de beaucoup de circoncision, je tiens quand même à rappeler que beaucoup d'enfants juifs avaient été déportés et ont été déportés sans être circoncis. Comme l'expliquait Madame Veil, qui risquait pas d'être circoncis, mais elle disait quand même qu'elle avait été arrêtée adolescente dans le Sud sans savoir même qu'elle était juive. Donc, plus que la circoncision, ça fait juste un tout petit peu réfléchir. Donc je vous en prie, si vous pouviez passer quelques minutes, regarder cette plaque. C'est important qu'on se souvienne tous que nous devons impérativement veiller à ce que tuer un homme reste tuer un homme. Comme disait Castellion à la mort de M. Servet, condamné par M. Calvin chez les protestants. Je vois mon vice-président au fond, c'est sa citation préférée. Également, tout à l'heure, nous allons tous partager la scène, et justement, si nous nous mettons en cercle tous ensemble, c'est que nous sommes tous au même niveau chez les protestants dans le partage de la scène. Enfin, nous aurons un verre de l'amitié derrière, dans la grande sacristie. Alors, je vous en prie, venez, parce que vous ne pourrez plus entrer dans la grande sacristie jusqu'à mi-décembre. Ça y est, c'est un miracle. Nous lançons la restauration de la grande sacristie. Nous commençons, la ville de Paris commence jeudi. Nous allons devoir confiner la grande sacristie parce qu'il se trouve qu'il y a du plomb dans la grande sacristie. Donc on n'aura plus accès jusqu'à la fin des travaux mi-décembre. Mais venez donc regarder dans quel état elle est. Toutes les inscriptions de l'histoire du protestantisme y sont. tous les pasteurs de l'oratoire y sont jusqu'en 78. Pourtant, l'oratoire s'est pas arrêté en 78. Eh ben, quand vous reviendrez en décembre, vous les aurez jusqu'à aujourd'hui. Normalement, si tout va bien. Donc, je vous en prie, rejoignez-nous à la fin du culte sur le verre de l'amitié. Et ces travaux vont donc coûter de l'argent. Ils vont être financés via la fondation de l'oratoire. La fondation abritée de l'oratoire permet, je fais une petite annonce très ciblée, à ceux qui payent l'impôt, je ne sais plus comment il s'appelle, sur la fortune immobilière, les dons à la fondation de l'oratoire permettent 75% d'abattement. Et comme la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière arrive sous peu, je vous en prie, profitez-en. Ça ne vous coûtera que 25% et ça nous permettra de continuer, notamment les travaux de l'orgue et les travaux de la rue de Rivoli et de l'arcade Rivoli qui devraient également être lancés incessamment sous peu si tout continue très bien à se passer avec nos élus, puisque vous savez que nous appartenons à la ville de Paris. Également, grande nouvelle, tu as parlé d'institutions. Notre conseil presbytéral a été élu un 28 juin 2020. Pour 4 ans. Nous arrivons dans une année élective, c'est-à-dire que le mandat de notre conseil presbytéral change. Alors on s'est posé beaucoup de questions, est-ce qu'on le fait comme tout le monde en avril, en mai, en juin, entre 3 baptêmes, 2 cultes, ou est-ce qu'on prend notre temps? Eh bien, puisqu'on a été élu un 28 juin, on va faire notre assemblée générale un 30 juin. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on aura fait une quille trop tôt, hein, donc 30 juin, notre Assemblée Générale. Mais surtout, le 30 juin, c'est très symbolique. Parce qu'il y aura donc l'ancienne équipe du Conseil presbytéral, celle de 2020-2024, la future, celle 2024-2028, pour faire la fête avec Agnès Adeline Schaeffer, qui part à la retraite. Donc, je vous en prie, le 30 juin, vous le marquez dans vos tablettes, on fait la fête entre les équipes du Conseil presbytéral et avec Agnès Adeline Schaeffer et Béatrice, qui du coup, je vous le dis tout de suite, ne me demandez pas qui remplace Agnès Adeline Schaeffer, parce que la règle chez nous est que nous avons 1 an de vacances, c'est-à-dire que Béatrice Kéromazir va tenir le bateau encore une fois 1 an toute seule. Mais avec nous et avec vous. Quelques annonces, et je termine là, qui sont importantes aussi pour le mois de mai, parce que j'ai les parents qui sont là aussi, et vous tous, dimanche prochain, et qui fait un temps dégueulasse, donc ne partez pas en long week-end. Dimanche prochain, nous avons, tu as parlé beaucoup de traditions protestantes, et il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre chez les protestants, c'est le sacerdoce universel. Alors nous en parlons dans la feuille rose. Monsieur Van Dieren, les éditions Van Dieren, viennent de republier Tous théologiens. Un bouquin absolument fabuleux de Raphaël Picon, malheureusement décédé bien trop tôt. Il est en vente à la librairie. Dimanche prochain, après le culte, restez écouter Béatrice Kléromazir et M. Van Dieren sur ce livre. Vous pouvez l'acheter dès maintenant, mais surtout restez dimanche prochain. Également, jeudi d'après, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc nous avons un culte le jeudi 9 mai, c'est Béatrice qui l'assurera. Agnès est en vacances à partir de demain, elle m'a dit surtout tu le dis, hein. Donc elle est en vacances à partir de demain, elle revient que le 10. C'est Béatrice qui assure le jeudi de l'Ascension. Et les enfants, vous revenez le dimanche 12 mai, week-end de l'Ascension. Donc je rappelle aux parents que nous attendons tous les enfants le dimanche 12 mai. Et puisqu'il faut quand même par moment avancer, je vous en prie, je le dis à eux, vous vous mettez dans les bancs des conseillers. Hein? Avançons, allez là-bas, dirigez cette église à vous. Donc arrêtez de vous asseoir devant, mettez-vous s'il vous plaît dans les bancs, pensez-y, on ne met pas des chaises devant pour mettre les enfants, on les met directement dans le banc des conseillers s'il vous plaît. Puisque je viens de parler de toi, nous embrassons très fort ton mari Gérard, à qui nous souhaitons également bon rétablissement. Voilà. J'ai été désolée d'être un peu longue, mais il y a quand même quelques grosses annonces. Bon dimanche à tous et je te laisse annoncer l'offrande.
Voilà, et je signale que pendant l'éducation biblique, les enfants vont s'adonner à l'exercice du synode, puisqu'ils vont faire eux-mêmes un synode sur la question du baptême. Doit-on être baptisé pour participer pleinement à la vie de l'Église. Alors vous voyez, on va voir quels sont leurs arguments pour ou contre. Alors, je vous invite maintenant à ce temps d'offrande. Souvenez-vous que tout ce qui nous est donné pour que nous puissions le repartager. Et c'est ce que vous vivez ici dans cette église que vous pouvez repartager avec d'autres qui arrivent. Souvenez-vous de tous ceux qui cherchent et qui trouveront cet endroit dans l'état où vous l'aurez vous-même entretenu et construit et fait avec vos dons, avec le partage de votre bien. Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la scène et j'invite les jeunes qui vont faire leur confirmation à bien écouter, bien être attentifs à cette liturgie, puisqu'elle sera aussi la liturgie de la scène le jour où vous allez prendre la scène, peut-être pour la première fois, le 19 mai. Quel rêveur, quel réformateur, quel anarchiste a jamais proposé d'inviter le patron et le manœuvre au même repas pour les faire boire à la même coupe? Et pourtant la Sainte-Seine opère ce miracle. Les boueurs y portent la coupe à ses lèvres et la passent au député qui boit après lui. Dans la simplicité de cet acte sans phrase, il y a quelque chose de surnaturel et qui nous dépasse, au point de nous troubler étrangement. L'Évangile y apparaît comme l'énergie égalitaire par excellence. Jusque-là, seule la mort pouvait prétendre nous rendre tous égaux face à elle. Toutefois, la mort crée brutalement une égalité involontaire entre les personnes, tandis que l'Évangile suscite harmonieusement une égalité des vivants, consciente et volontaire. Cette communion que nous célébrons tous autour de cette table est un bouleversement de l'ordre social, un ferment de réformes sans limite, une image de l'humanité future, le germe de la nouvelle terre où la justice habitera. Je suis en train de citer ici Wilfred Monod. Ce pain a une histoire. Pour faire la bouchée de pain qui nous est offerte à la table sainte, il a fallu presque un an d'efforts et de collaborations obstinées avec la pluie, avec les rayons du soleil et tout le travail des hommes, du grainetier à l'agriculteur, du semeur au moissonneur, du transporteur au distributeur, du grossiste au meunier, du meunier au boulanger, du boulanger à cette table. Ce pain est la nourriture la plus noble qui existe. C'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse et c'est le sacrement de la solidarité humaine. Solidarité avec l'humanité au travail qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Mais ce pain est aussi le symbole d'une inégalité meurtrière. Qui possède le pain est maître de celui qui ne le possède pas. Le morceau de pain est au centre du monde. Le jour où toute l'humanité sera pleinement assurée d'en manger marquera l'avènement du genre humain à la dignité humaine. C'est alors qu'il se dégagera définitivement de l'animalité. Ce pain et cette coupe sont au centre du monde pour nous ce matin, comme pour beaucoup de chrétiens qui célèbrent ce même repas en ce même jour. Par le fruit de la vigne, par les épis de blé et le travail des hommes, nous nous souvenons de Jésus-Christ qui s'est présenté à nous comme le pain vivant et comme la vigne. Il a vécu parmi nous, mais nous ne l'avons pas accueilli. Il a été trahi et mené jusqu'à l'abîme de la mort. Aussi, nous pouvons chanter sa gloire aujourd'hui dans notre foi et dans notre communion ici même. Je vous invite à vous lever. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père invité à cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde avec toutes celles et ceux qui n'ont pas de pain, toutes celles et ceux qui n'ont pas de travail pour pouvoir gagner leur pain, toutes celles et ceux qui attendent que l'on partage avec eux et qu'on les fasse entrer dans cet esprit d'égalité qui nous rend plus humains les uns et les autres. Éternel, nous te présentons notre monde où la prédation reste encore trop souvent la règle et où la solidarité reste toujours à construire. Permets, Éternel, que nous soyons de ceux qui tendent la main, de ceux qui aident, de ceux qui partagent et de ceux qui comprennent que toutes les situations de vie ne sont pas les mêmes. Éternel, nous te demandons le courage, l'engagement et le cœur assez grand pour mener à bien cette construction du royaume que tu nous as confié. Ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus a apprise à ses disciples quand il lui demandait comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à former le cercle, signe de notre égalité à toutes et tous, ici même, sous le regard du Seigneur.
Alors, attendez que le cercle soit bien formé, on a le temps.
Voilà, merci de vérifier que vous avez bien quelqu'un à côté de vous. Et non pas quelqu'un devant vous ou derrière vous. Ça permettra qu'on soit tous sur une même ligne. C'est de la géométrie liturgique. Voilà, venez, venez, Agnès, voilà. Viens près de moi. Viens près de moi, voilà. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le mémorial du sang de Jésus. Nous communierons tous ensemble. Je vous invite donc à garder le petit verre de vin que vous allez recevoir avant de communier ensemble. Merci. Thank you. en mémoire de Jésus-Christ. Nous allons pouvoir ensemble chanter le cantique « À toi la gloire ». Merci David. Mais vous n'avez pas besoin des cantiques, hein, les jeunes. Hein. Surtout pas des psautiers, puisque ce n'est pas dans le psautier. Alors, je vous invite à chanter de mémoire, les enfants, là. Je suis sûre que vous le connaissez. Chers amis, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour le pot de l'amitié après le culte dans la grande sacristie. Et puis n'oubliez pas aussi la librairie où vous allez trouver le fameux livre « Tous théologiens ». Je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous fait grâce et vous bénit. Et il vous envoie vers toutes celles et ceux qui ont besoin d'une parole de salut dans leur vie. Allez, soyez bénis.